divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Michel Paty, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes physicien, directeur de recherche au CNRS et à l'Université Paris Diderot. Vous êtes aussi philosophe. Vous faites partie de l'équipe Sphère, de sciences et d'épistémologie et d'histoire des sciences. Vous êtes donc doublement docteur en sciences et en philosophie. Vous êtes membre de l'Union rationaliste. Vous faites partie du comité de rédaction de Raison Présence. Et vous venez de coordonner un numéro difficile et très intéressant de cette revue, numéro pluridisciplinaire, sur lequel j'aurai plaisir à vous interroger ce dimanche matin, intitulé « Réduction et émergence dans les sciences ». Titre difficile, alors première question, Michel Paty, pourquoi ce titre ? Plutôt que commencement et fin, tout est parti, science et objet des sciences, dualisme au pluriel.
Écoutez, la première réponse immédiate, c'est que tous les termes que vous venez d'employer se réfèrent plutôt à quelque chose de statique. Alors que justement, dans réduction et émergence, il y a l'idée d'un mouvement, le mouvement de réduire, le mouvement de faire apparaître, et, ou de se rendre compte qu'apparaît. Hein. Et donc c'est dynamique plutôt, et c'est comme ça qu'est la connaissance. C'est comme ça qu'est la connaissance rationnelle. Elle travaille de manière dynamique, en changeant, en améliorant si possible, en étendant, en approfondissant la connaissance et les sciences. Et donc ces deux termes sont assez appropriés pour des démarches de la pensée scientifique. Mais il se trouve qu'ils peuvent être aussi appropriés pour une réflexion sur ce que sont les objets des diverses sciences. Et surtout, alors on pourra venir un peu plus en détail sur ces questions, mais surtout, ce qui me semble important dans ce numéro, c'est que nous avons interrogé ces questions pour différentes sciences, pour des sciences très diverses. Bien sûr, en nombre limité, mais il y en a quand même 9, et qui vont des sciences exactes et des sciences de la nature aux sciences humaines. Et en général, ces sciences sont assez différentes parce que leurs objets ne sont pas les mêmes. Les objets des sciences de la nature, c'est la nature, inanimé ou animé, le vivant, ça va même jusqu'aux neurosciences. Et alors que les sciences sociales et humaines, elles regroupent beaucoup de disciplines qui vont de l'histoire, dont nous n'avons pas pu traiter cette fois-ci. Mm-hmm. Elles vont à l'anthropologie, la sociologie.
Dont vous avez abondamment parlé dans ce numéro.
Oui, et puis à l'économie politique, ce qui est extrêmement important, puisque l'économie politique, c'est une science qui pose des problèmes dans la mesure où elle s'occupe de notre bonheur éventuel ou fait notre malheur éventuel.
Absolument. Alors, dans son article, Jean-Claude Dupont, qui est historien des sciences, éclaire l'histoire du concept d'émergence et ses difficultés dans les neurosciences. Ce concept serait apparu au début du XXe siècle, chez certains penseurs britanniques comme Samuel Alexander, par crainte précisément du matérialisme qui leur semblait être la conséquence de la théorie de la sélection naturelle. Émergence ou survenance leur permettrait de penser l'apparition de niveaux d'organisation complexes qui ne se réduisent pas aux mécanismes causaux et physiques qui les produisent. Donc, au fond, ce concept permettrait de concilier l'explication rationalisme et l'idéalisme. Est-ce à cela que le concept d'émergence tend ? Et en regard de cette explication, que dire du concept de réduction et de réductionnisme ? Le réductionnisme serait-ce l'attitude consistant à réduire au physicalisme ce qui pourrait apparaître aussi comme spirituel ? Éclairez-nous.
Oui, si. Oui, effectivement, l'origine du mot émergence, qui n'était pas employé dans un sens, au sens de la connaissance ou au sens de contenu de science, et son origine est comme Jean-Claude Dupont l'a analysé. Mais entre l'origine et ce qu'un concept devient, il y a beaucoup d'histoires qui se passent,
et
beaucoup d'eau sous le pont de Mirabeau. En fait, le mot émergence me paraît presque au contraire particulièrement approprié pour justement décrire ce qui se passe dans l'évolution au sens de Darwin,
oui,
qui est une conception matérialiste de l'évolution, dans laquelle il n'y a que les êtres vivants et puis leur jeu naturel dans le cours des choses. Et effectivement, on constate qu'il apparaît des espèces au cours du temps. Donc, le concept d'émergence apparaît particulièrement intéressant par rapport à cette situation. Alors là où on peut trouver un problème, c'est précisément comment cette émergence de formes nouvelles apparaît-elle alors que les formes précédentes ne contenaient pas les propriétés,
voilà,
du vivant, ensuite du pensant. Hein. Alors c'est cette question du passage.
Du saut.
Du saut. De quoi s'agit-il exactement? Alors des penseurs comme ceux que cite Jean-Claude Dupont dans son introduction à son article, des penseurs qui se situent dans une société religieuse, l'anglicanisme du 19e siècle, ils pensent qu'il y a une différence parce que c'est, au fond, c'est la divinité qui insuffle les propriétés nouvelles.
Un sacré saut, donc.
Voilà. Mais on peut penser aussi d'une manière matérialiste qu'il y a un saut en ce sens que des propriétés qui n'étaient pas présentes dans les êtres constituants de ces organismes s'avèrent présents. On les découvre avec ces êtres-là. Et donc, à ce moment-là, comment en rendre compte puisqu'ils n'étaient pas présents dans les êtres constituants? Bon, on peut très bien avoir une position matérialiste et rationaliste qui consiste à dire que, certes, ces propriétés n'étaient pas là en tant que telles, mais elles ont été constituées à partir des propriétés précédentes. Mmh. De quelle façon? Ça n'est pas toujours clair et on ne le sait pas toujours. Et la réduction, ça serait justement de dire qu'on le sait exactement. La réduction, ça serait de dire, par exemple, nous connaissons les particules dont sont constitués tous les corps, donc nous connaissons toutes les propriétés possibles de tous les corps. Ça serait le réductionnisme complet. C'était d'ailleurs un peu comme ça que pensaient beaucoup de savants en physique au 19e siècle, notamment ceux qui étaient les promoteurs de la science de la mécanique.
Ils pensaient dans un espèce de positivisme plat.
C'est un positivisme, scientisme même, mm-hmm, qui au fond ne veut pas entendre parler qui considère que tout ce qui existe est déjà donné dans ce que nous connaissons.
D'accord. Et donc, il n'y a pas de dynamisme,
voilà,
et de alors la production, que, parce oui, que peut-être il faut éviter le mot création.
Oui, bon, création
et,
au sens...
Et c'est aussi ce que le mot émergence permet de
signifier. Justement, émergence, il a l'avantage de ne pas parler de création.
Création, bien sûr.
Création, c'est gênant quand on parle de l'évolution des êtres. Ça n'est pas gênant quand on parle de la pensée humaine et de la connaissance qu'elle établit, puisqu'elle l'a créée, puisqu'il n'existait pas dans la nature avant.
Très bien. Dans ce numéro, vous faites intervenir des physiciens, dont le président de l'Union rationaliste, Édouard Brézin, des anthropologues, Maurice Godelier, des sociologues, Roland Pfefferkorn et Xavier Dunza, des biologistes, Michel Morange, des économistes, Jean-Marie Haribet. Ce parti pris pluridisciplinaire favorise-t-il la recherche d'invariants épistémologiques pour nous aider à penser de façon dynamique l'apparition de phases, l'apparition de transitions? Est-ce que c'est bien cela que vous cherchez dans ce numéro?
Pas tout à fait. C'est-à-dire, certes, il peut y avoir des invariants épistémologiques. C'est ce que nous apprend Maurice Godelier. Et après Lévi-Strauss, il y a l'anthropologie est une science qui a mis au point un certain nombre de théories et de conceptions où l'idée d'invariant structural même est très présente et qui d'ailleurs, d'une certaine manière, prolonge les sciences de la nature à cet égard, en particulier la physique et la physique mathématique. Mais en réalité, la question est plus large, c'est-à-dire que l'épistémologie des sciences, quand on les considère dans leur diversité, et elle n'est pas forcément, elle ne se manifeste pas forcément par des invariants qui iraient d'une science à une autre. Il y a des différences nécessairement entre les différentes sciences. Elle s'attaque à des objets, à des questions qui sont qui n'ont presque rien à voir, sinon qu'on suppose que leur base commune, c'est la matière dont tout l'univers est constitué. Mais la biologie, elle doit s'assurer de ses propres ressources, c'est-à-dire de ses propres concepts et de ses propres relations de concepts, relations rationnelles des concepts les uns avec les autres. Et c'est par elle-même qu'elle l'établit, elle ne l'apprend pas à la physique. Alors, les empreintes d'une science à une autre, ils existent, mais ils ne sont pas le tout de l'esprit scientifique. Il est certain que des fois, une science développant un type de raisonnement, ça peut porter des fruits dans une autre science. C'est souvent d'ailleurs comme ça que les sciences ont commencé. Les différentes sciences ont commencé. Mais après, il faut qu'elles se rendent compte de leur diversité. Et là, je crois que c'est très, très caractéristique avec, par exemple, l'exposé de Maurice Godelier, qui est en fait un entretien. Mm-hmm. On voit bien que l'anthropologie, elle peut établir des invariants, par exemple, sur les rapports de parenté ou des choses comme ça, mais elle établit en même temps qu'il y a une évolution de ces invariants, que ces invariants se transforment, ces invariants structurels, qu'il y a des transformations dans les sociétés. Alors, sans ça, on ne serait pas ici, nous.
Bien
on
sûr.
Serait les sociétés premières, les premières sociétés. Alors, et en particulier l'économie politique. L'économie politique montre très bien que si l'économie politique se contentait de copier, par exemple, la physique ou la mathématique statistique, eh bien, à ce moment-là, lui échappe complètement son objet véritable, c'est-à-dire l'homme en société. La particularité de l'homme en société, qui est un être vivant dans la nature, pensant, raisonnant, et souvent passif, suivant passivement les courants sociaux. Mais il n'empêche que tout ça n'en fait pas un objet des sciences autres que l'économie politique. Donc l'économie politique doit déterminer son propre objet. Elle le détermine comment ? Non pas en réduisant cet objet, c'est-à-dire en réduisant l'homme et la société à des idées purement abstraites ou qui intéresseraient une certaine idéologie, hein, mais ils sont caractérisés par ce qu'ils ont, par ce qu'ils vivent, par leur expérience vécue, si vous voulez. Mm-hmm. Et cette idée d'expérience vécue qui fait peut-être la grande différence entre les sciences de la nature et les sciences humaines et sociales. Mm-hmm. Il est clair que si on parle de l'homme et de la société, il faut parler de l'expérience vécue des hommes, de l'homme et de la société avec tous leurs problèmes. Et ces problèmes, c'est les problèmes matériels, mais c'est les problèmes aussi, des problèmes comme les valeurs que l'homme donne à sa vie, donne à la nature, etc. Et Jean-Marie Haribet montre très bien ça dans son exposé.
Très bien. Alors, au fond, ce sur quoi, ce que vous permet de penser cette pluridisciplinarité, c'est peut-être que la raison n'est pas monolithique dans les différentes sciences. Donc, j'en viens à ma question traditionnelle. Mmh. Que je pose à tous les membres de l'Union rationaliste et à tous mes invités rationalistes. Michel Paty, pourquoi êtes-vous rationaliste ?
Oui, c'est une question évidemment qui se pose, que je me suis posée, parce que je n'ai pas toujours été membre de l'Union rationaliste. Je suis même venu sur le tard par des amitiés. Bon, finalement, on se dit pourquoi pas, puisque je pense... je suis très proche d'eux par les conceptions, par les convictions. Oh, pourquoi pas ? Ça sera plutôt sympathique. Et puis, on peut peut-être faire quelque chose.
Vous parlez, vous vous adressez aux auditeurs de France Culture du même coup.
Oui, absolument. Absolument. Mais cela étant, j'étais rationaliste bien avant d'adhérer à l'Union rationaliste.
Bien sûr.
De même que je veux dire que beaucoup d'hommes sont rationalistes. Sans forcément dire qu'ils sont rationalistes, quand on dit « je suis rationaliste », ça peut paraître être « je suis rationaliste, donc je ne suis pas ».
Absolument, ça fait normatif, ça fait
affectif, je ne suis pas esthétique, je ne suis pas, etc., éthique. Mais non, moi je pense que le rationalisme, la raison c'est une des grandes facultés de l'homme. Le rire et la raison sont le propre de l'homme, encore que la raison, le rire sûrement, mais la raison elle est peut-être aussi partagée par certains animaux supérieurs, mais pas dans le même sens qu'avec l'homme on a la raison réflexive. C'est-à-dire la raison qui réfléchit sur elle-même et qui se sait raison. Et ce que, à ma connaissance, on n'a pas chez les animaux supérieurs.
C'est clair. Alors, alors, c'est parce que vous riez que vous êtes rationaliste, et puis...
Si vous voulez, si vous voulez, moi je pense que le rire et tout ce qui fait la particularité de l'être humain, tout ce qui fait son charme, tout ce qui fait sa misère, tout ce qui fait sa gloire, tout cela, ça doit être considéré par quelqu'un qui considère que la raison est fondamentale. Parce que la raison, qu'est-ce que c'est la raison ? C'est se dire, être rationaliste. C'est-à-dire vouloir penser selon la raison. Parce qu'on a beau être rationaliste, on ne pense pas toujours seulement selon la raison. Hein. Ça veut dire qu'en fait, la raison n'est pas du tout exclusive. Et moi, je trouve dans ma réflexion sur la raison, mais qui n'est pas toute seule, j'ai lu des philosophes et j'ai lu des gens qui ont bien pensé sur ces choses-là, pour moi, la raison, elle va directement avec l'idée de liberté. Si je n'avais pas la liberté de penser, à quoi servirait la raison ?
C'est Michel Paty sur ces derniers mots que nous allons clore cette émission. Je vous remercie. Je rappelle qu'on peut se procurer le dernier numéro de Raison Présente. Réduction et émergence dans les sciences, comme le dernier numéro des Cahiers Rationalistes, en nous écrivant à l'Union Rationaliste, 14 rue de l'École Polytechnique à Paris dans le 5e, ou par le site de l'Union Rationaliste, www.union-rationaliste.org, site où vous pouvez entendre ou réentendre les émissions de France Culture et où vous pouvez aussi commander les publications de l'Union Rationaliste. Je remercie Dany Journeau et Jaizan Taous qui ont rendu possible cette émission et je vous dis au mois prochain.